Bonsoir, Prise, ça va?
Bonsoir.
Nous pouvons maintenant commencer ce moment si important, ce rendez-vous divin avec le Seigneur autour de sa parole. Chaque jour, ce n'est pas une mérite, c'est une grâce que le Seigneur nous fait de nous tourner vers sa parole. Je vais demander à notre frère Médard de prier. Notre sœur Kaba va prêter la lecture en psaume 44, du premier verset jusqu'au verset 17e. Prions le Seigneur.
Oui, prions le Seigneur bien-aimé. Seigneur Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir pour ce moment merveilleux encore que tu nous donnes. Seigneur Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que toi, dans ton amour et dans ton bon vouloir, tu veux encore nous rassembler autour de ta parole. Merci Seigneur Dieu pour ce moment merveilleux. Nous te bénissons Seigneur Dieu pour tout ce que tu vas faire pour nous, pour tout ce que tu vas nous dire Seigneur. Merci d'être avec nous pendant tout ce temps. Seigneur Dieu, nous venons encore auprès de toi. De demander, Seigneur Dieu, de nous purifier, de nous sanctifier, Seigneur Dieu. Nous reconnaissons à d'autres moments, nous n'avons pas été dignes de toi. Mais Seigneur Dieu, pardonne-nous. Nous voulons être sanctifiés par toi, pour que, Seigneur, de notre rencontre soit une rencontre qui va te plaire. Que, Seigneur, de cette rencontre, nous puissions en profiter. Remplis chacun de nous de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour que nous puissions comprendre toutes les interventions qui vont sortir maintenant. Grand Dieu, c'est entre tes mains. Nous voulons te confier ton enfant, le pasteur Célestin, qui va nous diriger ce soir. Merci, Seigneur Dieu, de l'aider à canaliser toutes les idées, Seigneur Dieu, pour que nous puissions comprendre ta parole. Et que, Seigneur Dieu, tu puisses nous aider aussi à la mettre en pratique. Merci, Seigneur Dieu, pour ceux-là qui sont déjà là. Ceux qui ne sont pas encore là, Seigneur Dieu, merci parce que tu vas les aider aussi à nous rejoindre, Seigneur Dieu, pour que nous puissions bénéficier de ta parole ce soir. Seigneur, nous prions aussi pour nos bien-aimés qui sont à la radio. Que tu sois avec eux, Seigneur. Que tu les aides aussi à comprendre ta parole. Ceux qui vont sont tentés de suivre en direct, Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour toutes les interventions qui vont sortir. Et merci parce que tu vas utiliser tes enfants. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour ce que nous allons faire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, et nous t'avons ainsi prié. Amen.
Amen. Merci beaucoup pour la prière, Frère Médard. Peuple de Dieu, prenons le texte qui nous est recommandé aujourd'hui pour la méditation. Nous sommes dans ce psaume écrit par les fils de Corée, le psaume 44. Nous allons écouter la lecture du premier verset jusqu'au verset 17e avec notre sœur Kaba.
Merci, papa. Je lis en Louis Segond. Au chef des chantres des fils de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre, car ce n'est point par leur épée qu'ils le sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est ta lumière, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu rends ton peuple pour rien. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne t'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Amen.
Amen. Merci beaucoup, ma sœur Kaba, pour ce moment de lecture de la parole de Dieu. Si vous êtes connecté à la radio en retard ou même en direct, nous venions d'écouter la lecture dans Psaume 44, du premier verset jusqu'au verset 17e. Deux questions nous ont été proposées. La première, de quoi ou de qui parlent ces textes? Et la deuxième question, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, même voire Dieu le Saint-Esprit? Mais notre texte, nous pouvons facilement le subdiviser en deux parties, le Dieu d'hier et le Dieu d'aujourd'hui. Hier, c'était des grands exploits, c'était des grandes victoires. Ceux qui racontent la version français courant le précisent bien, ce sont des enfants et des petits-enfants qui ont reçu respectivement de leurs parents ce que Dieu avait accompli. Alors ils se disent, mais est-ce que ce Dieu a changé? Comment aujourd'hui nous voyons toutes sortes de défaites, nous voyons toutes sortes de confusions, nous voyons toutes sortes d'injures, de déshonneurs, de moqueries, de déshonneurs. Et tout cela en disant, mais où est le Dieu que nos pères nous ont raconté? Pourquoi aujourd'hui notre armée part, elle est vaincue et notre Dieu n'accompagne pas cette armée? Voilà, frères et sœurs, c'est vraiment une grande réalité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On nous a parlé des grands exploits des serviteurs de Dieu, de Pierre, de Paul, de tout ce qu'ils ont fait en confessant, en proclamant le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, c'est comme si Dieu a changé. Les problèmes que le peuple de Dieu avait hier, quand ils ont invoqué Dieu, Dieu était à l'œuvre. Mais aujourd'hui, c'est comme si Dieu ne nous entend pas. Les choses dures, le père dur, les maladies, toutes sortes de problèmes. Mais est-ce que Dieu a changé? Non, Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, frères et sœurs, un texte extrêmement riche qui nous est recommandé. Nous allons, dans un premier temps, prendre la première partie du premier verset jusqu'au verset 9e pour que nous puissions partager ce que les enfants et les petits-enfants ont écouté leur père parler de ce Dieu. Ensuite, nous irons dans la deuxième partie. Qu'est-ce qu'ils sont en fait en train de vivre maintenant? Et qu'est-ce que nous sommes en train de vivre maintenant? Voilà, frères et sœurs, de quoi il va y avoir question dans notre partage ce soir. Les 9 premiers versets sont nombreux et très riches. Donc, nous pouvons prendre 2 ou 3 versets pour partager, pour que nous puissions, vers la moitié de notre temps, terminer la première partie et attaquer la deuxième partie. Voilà, l'autorisation nous est donnée, frères et sœurs. Nous pouvons maintenant demander la parole pour partager. Mais le temps doit être de rigueur. Ne soyons pas bavards pour prendre 3 ou 4 minutes. 2 minutes peuvent suffire pour dire vraiment l'essentiel, mais après nous pouvons revenir pour achever ce que nous n'avions pas dit pour la première fois. Donc nous allons de l'avant, frères et sœurs. Les sifflets du démarrage du match commencent. Papa José, tu es aujourd'hui l'avant-centre, tu as la parole.
Merci beaucoup, pasteur. Frères et sœurs, je prends le verset 2. Le verset 2 est un verset que j'aime beaucoup.
Amen.
Parce que ce verset rappelle ce que les enfants ont entendu de leurs parents et grands-parents. Nous avons entendu de nos propres oreilles. Nos parents, nos grands-parents nous ont raconté ce que toi-même, ô Dieu, tu as réalisé de leur vivant il y a longtemps. Nous sommes en Israël, nous sommes des sédentaires. Nous avons notre pays, Israël, avec ses limites. Alors que nos parents, nos grands-parents, ont été des nomades dans les déserts lorsqu'ils quittaient l'Afrique. Bien-aimé, j'apprécie l'action de parents et de grands-parents qui n'ont pas caché ce que Dieu a fait de leur vivant. Dieu a fait de grandes choses, nous verrons dans les textes, et ils n'ont pas caché. J'apprécie aussi les enfants parce que ils se souviennent que ce Dieu-là, qui est le nôtre, a fait des grandes choses du vivant de nos parents, du vivant de nos parents. Ce qui suppose que ce Dieu peut aussi faire des grandes choses de notre vivant. Bien-aimés, nous devons nous rappeler de ce que nous attendons, nous avons entendu de nos parents, de nos frères et sœurs qui ont cru au Seigneur avant nous. Et aussi, les parents, c'est un bon exemple. Ils ont raconté à leurs enfants ce que Dieu a fait. Est-ce que moi, je raconte à mes enfants ce que Dieu a fait dans ma vie. Merci.
Oui, merci, papa Joseph. C'est vraiment un exemple à suivre. Les parents ont raconté ce que Dieu a accompli depuis la sortie d'Égypte. Ils ont connu des grandes victoires sur le chemin, nous allons le voir en détail, mais c'est le fait de raconter. Frères et sœurs, je vois parmi nous beaucoup de parents, beaucoup de futurs parents. Nous devons savoir que ce que Dieu a déjà fait dans nos vies, nous devons le raconter à nos enfants. Ce témoignage leur servira plus tard. Ils commenceront, comme ces enfants d'Israël, à dire que le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère, c'est le Dieu qui nous a gardés jusqu'à présent. Merci beaucoup, Papa José. Donc, j'arrive au verset 3. On commence maintenant en détail ces enfants qui ont entendu de leurs propres oreilles ce que Dieu était capable, ce que Dieu avait accompli. Ils vont maintenant dire, « Notre Dieu, tu as dépossédé des nations pour rétablir nos parents dans ce pays que nous sommes. » Ce n'était pas un pays inhabité, c'était un pays habité que tu as donné à nos parents. Mais tu as chassé, exterminé des nations au profit de nos parents. Mais ce qui est important, hein, le verset 3 et le verset 4, ils vont dire, nos parents n'avaient pas une grande armée. Ils n'avaient pas ce qu'il y a de nécessaire pour chasser ces nations qui étaient super occupées, super armées plutôt. Mais si nos parents ont pu réellement prendre la possession du pays, c'est grâce à toi. Quelle reconnaissance des enfants à qui on avait raconté, mais c'est resté. Ils savent que la victoire, de là où ils sont, le pays qu'ils occupent, ce pays n'était pas, de prime abord, n'était pas occupé par leurs parents, leurs grands-parents, leurs aïeux. C'était occupé par d'autres nations, mais ces nations ont été dépossédées, mais aujourd'hui la nation d'Israël est là. Et les enfants reconnaissent. Nous devons, frères et sœurs, apprendre à savoir que la victoire que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement à cause de notre savoir-faire, c'est à cause de la grâce de Dieu qui fait que nous pouvons être en bonne santé, qui fait que nous pouvons travailler. Il y en a des milliers cloués dans les hôpitaux, ne sont même plus en mesure de travailler. Si nous, nous travaillons, c'est la grâce de Dieu. Si nous, nous étudions, c'est la grâce de Dieu. Si nous, nous pouvons nous réveiller et faire ceci et faire cela, c'est la grâce de Dieu. Et c'est ce que ces enfants sont en train vraiment de nous apprendre. L'exemple des parents, c'est un grand exemple. L'exemple des enfants qui sont reconnaissants, c'est vraiment un grand exemple. Que notre Dieu soit béni pour nous enseigner de la reconnaissance. Pardon, de la reconnaissance des enfants et des parents. Oui, maman Christine, tu as la parole, s'il te plaît.
Oui, merci, Pasteur Célé, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis au verset 3. Le verset 3, c'est tout, ça m'a beaucoup touché pour dire que de ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre. Quand on dit frapper les peuples, donc il y a eu des morts. Et je vois combien le Seigneur y tient pour la vie de son peuple, de ceux qu'il a choisis. Il peut même éliminer des nations comme il a fait des gens, comme les rois Og, Sion. Donc, il les a éliminés pour que son peuple vive, s'étende, c'est-à-dire trouve la place de vivre. Moi, c'est comme une interpellation, une façon de dire qu'il ne faut pas jouer avec un peuple qui appartient à un Dieu puissant comme notre Dieu, comme ça. parce que Dieu est capable même d'éliminer pour laisser son peuple vivre dans la paix. Et il n'a pas changé aujourd'hui, il le fait aussi, il peut le faire. Amen.
Amen.
Merci beaucoup. Dieu travaille de génération en génération. Il travaille pour l'intérêt de son peuple. Il est capable de déposséder des nations pour le rétablissement, pour l'accomplissement de du plan qu'il a pour ses enfants. Merci beaucoup. Nous continuons, frères et sœurs. Ne soyons pas timides. Seulement écoutez. Nous pouvons continuer à demander la parole pour que nous puissions nous édifier mutuellement. Oui, papa José, tu as encore la parole.
Merci beaucoup, pasteur. J'aimerais souligner l'amour de Dieu pour ce peuple-là. C'est à la fin du verset 4. Mais c'est ton intervention en force et ta présence accueillante et ton amour pour eux. Si le Seigneur a intervenu en faveur des ancêtres, c'est à cause de son amour pour eux. Le Seigneur aimait ce peuple-là qui vivait dans le désert, qui revenait d'Égypte. À cause de son amour, il les a aidés à remporter les victoires. L'amour de Dieu n'a pas de fin. Son amour est aussi vrai pour nous qui vivons aujourd'hui. Et quand nous regardons ce que Dieu a fait pour nous en nous envoyant son Fils, oh bien-aimé, c'est à cause de son amour qu'il nous a envoyé le Seigneur. Et partout, durant toutes nos vies, nous croyons sur l'amour de Dieu. Son amour n'a pas de fin, selon l'Écriture. Mais il arrive souvent, lorsque on est en difficulté, n'importe quelle difficulté, on voit comme si Dieu ne nous aimait pas, ne m'aimait pas. Est-ce que Dieu vraiment, il m'aime encore? Oui, mais nous répondons que il nous aime toujours. Les difficultés sont là, mais ces difficultés n'enlèvent pas l'amour de Dieu pour nous. Donc, nous devons tout simplement nous attacher à lui. Il nous aime toujours, malgré les difficultés de la vie que nous connaissons. L'amour de Dieu est très important pour nous, bien-aimés. Merci.
Merci, papa José. Dieu reste un Dieu d'amour. C'est Dieu qui a fait une grande intervention pour son peuple. Et il va même dire ta présence accueillante et ton amour pour eux. C'était vraiment suffisant pour combler à ces peuples et même les enfants qui se rappellent de ces grands amours. Le verset 5, frères et sœurs, si vous avez la version Ségan, il est dit, c'est toi qui es mon roi, ô mon Dieu, ordonne le salut de Jacob. Mais quand on lit le même verset en français courant, il est plus clair et plus explicite. Le français courant dit, c'est toi mon roi, C'est toi, mon Dieu, qui décides le succès de ton peuple. Donc, c'est vraiment grand. C'est vraiment énorme, c'est que le message que nous pouvons tirer de ce verset 5. C'est toi, mon Dieu, c'est toi, mon roi, qui décide le succès de ton peuple. Qui est l'auteur du succès que j'ai ou que tu as aujourd'hui? Qui est l'auteur de l'élévation que tu as aujourd'hui, de la considération que tu as aujourd'hui? Qui en est l'auteur? Ce sont peut-être tes efforts, ou peut-être les efforts de tes parents. Mais le peuple d'Israël nous montre que les succès, quel que soit le niveau de succès que nous avons, nous devons tout rendre gloire à notre Dieu. Le peuple qui déclare « Tu es mon Dieu, tu es mon roi », c'est toi qui décides le succès de ton peuple. C'est une déclaration qui doit être dans la bouche de chacun et de chacune des enfants de Dieu aujourd'hui. Et le Dieu que nous servons, c'est Dieu, c'est notre Dieu, c'est celui qui a le dernier mot sur notre sort, sur notre destinée, sur tout ce que nous espérons de lui. Le succès nous vient que de lui seul. C'est vrai, il nous donne les capacités, il nous donne l'intelligence. Nous sommes très intelligents, nous sommes très expéditifs, nous sommes très éloquents, nous savons parler toutes les langues, nous savons bien manier les mathématiques, nous savons bien écrire l'anglais, le français, nous savons beaucoup de choses. Mais c'est par la grâce de Dieu. Le succès ne vient que de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Nous continuons. Nous avons dans la première partie encore 4 versets que nous pouvons ramasser rapidement et puis nous allons passer dans la deuxième partie bientôt. Donc, je redonne encore la parole à maman Christine, s'il te plaît.
Merci beaucoup, Pasteur Célé, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis au verset 6. Au verset 6, c'est un très bon exemple à suivre toujours de ce peuple, les fils de Corée, qui sont sûrs, ils ont la foi, ils croient que le nom de l'Éternel, c'est ça qui leur donne la victoire. Il dit, avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Donc, il est sûr que la victoire, la guerre que nous avons, notre victoire vient de toi, de ton nom. C'est toi qui es notre force. Et ça, c'est un très bon exemple. Même nous, bien-aimés, qui avons confiance à l'Éternel, ce n'est pas nous allons avoir la victoire que nous sommes, la guerre que nous avons avec notre ennemi, pas à cause de n'importe quelle arme, mais c'est le nom de l'Éternel, le nom de Jésus, c'est ce nom qui nous aide qui nous donne, qui a la force, qui écrase l'adversaire. Et moi, je dis que notre Dieu n'a pas changé. Nous aussi, nous pouvons continuer à crier, à dire, avec toi, nous renversons. Et c'est la réalité, nous renversons les ennemis. Parce que la guerre a été déjà vaincue à la croix de Golgotha. Amen.
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 Merci beaucoup. Maman Christine, de nous parler au verset 6 de la guerre, de la guerre qui est déjà vaincue, des ennemis qui sont une réalité. Aujourd'hui encore, les ennemis restent une réalité, des ennemis visibles et invisibles. Même quand nous sommes réunis ici, il y a des ennemis invisibles qui aimeraient que nous arrêtions. Il y a des ennemis visibles qui veulent la destruction de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, c'est une réalité que le peuple de Dieu doit s'élever pour combattre, pour combattre dans la prière, pour combattre dans la victoire, en utilisant bien sûr quelques armes qui ont été données à l'Église. En Éphésiens 6, nous avons les armes que nous devons utiliser chaque jour pour la victoire. Merci beaucoup, Papa José. Tu as encore la parole.
Merci beaucoup. Je prends 7 et 8. Celui qui écrit le psaume dit « Je ne me fie pas à mon arc, à mon épée. » Et mon épée, pardon, et mon épée ne met aucun secours, car c'est toi qui nous sauves de nos adversaires et humilie ceux qui nous en veulent. Oui, bien-aimé, cet homme, il était guerrier. Il avait son arc, il avait tout ce qu'il faut pour la guerre, l'épée, l'arc, même des flèches à l'époque. Mais il dit que toutes ces armes-là, toutes ces armes que j'avais, que j'ai, n'ont pas d'utilité. C'est-à-dire, ils ne me servent pas. Elles ne me servent pas, ces armes. Je les porte, je vais en guerre, mais la victoire que j'ai, c'est le Seigneur qui me la donne. Il a les armes, bien sûr, mais quant à la victoire, elle, il l'attribue au Seigneur. Quel exemple! Quel exemple! C'est comme un étudiant. Un étudiant prépare ses cours. Il veille. Il a tout ce qu'il faut. Il va à l'examen. Et là-bas, s'il est chrétien, il se remet entre les mains du Seigneur. Et je me rappelle souvent, il y a un psaume ici qui dit que le cheval est bien armé, mais la victoire appartient au Seigneur. C'est ça mon verset pour passer les examens. J'ai fait ce que je pouvais faire, mais pour réussir, c'est toi, mon Dieu. Et Dieu ne manquait pas au rendez-vous. C'est ça pour toute la vie, pour tout ce que nous entreprenons, bien-aimés. Nous faisons tout ça, les calculs, le plan et consorts. Mais quant à la réussite, il faut la confier au Seigneur. Parce que c'est lui. C'est lui seulement. C'est lui qui nous donne cette force-là de bien préparer. Tandis que les autres dorment, moi je veille. Qui m'a donné ce courage de veiller? C'est le Seigneur. C'est pour cela que la victoire est attribuée au Seigneur. Merci.
Merci beaucoup. La victoire est attribuée au Seigneur, celui qui a le dernier mot, celui qui a le point final sur la situation de chacun et de chacune, sur la guérison, sur la délivrance, sur tout ce que nous attendons de lui, la victoire. Le dernier verset de notre première partie nous parle de la louange, nous parle des acclamations, nous parle combien nous devons continuer à louer les victoires, à louer les succès, à acclamer notre Dieu, et cela tous les jours. Quand nous nous réveillons, rendons gloire à Dieu, même quand nous avons de pleurs. Nous avons des situations dures, nous avons des situations qui persistent. Rendons gloire à Dieu, il n'oublie pas le sien. Voilà, frères et sœurs, nous allons, après avoir regardé les exploits de ce que ces enfants ont écouté, Nous allons maintenant regarder la deuxième partie, du verset 10 jusqu'au verset 17. Cette partie donne ou présente le tableau du présent, de ceux qui sont en train de voir, de ceux qui sont en train de dormir et de se réveiller et de constater. Là, nous pouvons maintenant prendre un verset ou deux versets pour que nous puissions achever cette méditation d'aujourd'hui en voyant la réalité de ce que ces enfants sont en train de vivre aujourd'hui. Voilà, je vois encore la main. Maman Christine, tu as encore la parole.
Merci, Pasteur Célé, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, comme notre modérateur l'a dit au début, là, c'était des exploits. Mais qu'est-ce que les menaces, les tableaux sombres, qu'est-ce qu'il y a dans ces tableaux? Nous voyons, Dieu, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec notre armée. De 11, tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Voilà, bien-aimé. Hier, c'était l'arc ne faisait pas, ne donnait pas la victoire, mais c'est Dieu qui combattait. Mais aujourd'hui, et sans l'absence de Dieu dans cette guerre, Dieu n'est pas là. Et comme il n'est pas là, c'est catastrophique. Donc, les ennemis qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Il y a l'échec, il y a les dégâts, la débandade dans notre camp. Bien-aimé, qu'est-ce que j'étais en train de réfléchir à dire? Quand je lisais ça, j'ai dit, Dieu a toujours été bon. Il combat avec nous. Mais qu'est-ce qui peut faire que les tableaux actuels, il ne va plus avec nous à la guerre? C'est ça la question que je me posais. J'ai dit, est-ce que c'est pas mon comportement qui fait que Dieu me laisse moi-même combattre? Ou bien parce que Dieu veut me voir comment je vais m'y prendre à me laisser. Mais est-ce qu'en réalité je suis seule? Ou bien il veut savoir si je vais lui faire confiance ou pas? Comme les ancêtres m'ont fait confiance. Comme ceux qui ont vécu avant moi. Donc c'est ça que j'étais en train de me poser la question. Si c'est à cause de mon comportement, je dis Seigneur, aide-moi à bien me comporter pour que je ne sois pas seul en face des ennemis, parce qu'ils sont plus forts que moi. Mais si c'est Dieu veut voir comment je vais m'y prendre, est-ce que je ferai le cours, est-ce que je continue à lui faire confiance? Je dis Seigneur, donne-moi cette confiance-là. Que je te regarde et que je ne panique pas. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Donne-moi cette confiance. Dieu n'est plus présent. Dieu n'accompagne plus l'armée. Le peuple est couvert de confusion et le peuple arrive à constater « Oh, Dieu nous a rejetés. » Frères et sœurs, ce que nous allons partager dans cette deuxième partie nous montre réellement quand Dieu n'est plus présent, ça signifie qu'il y a nécessairement la désobéissance dans laquelle le peuple vit et aussi de situations où des nations, des familles, des pays où on a mis Dieu de côté, on est capable de vivre une telle désolation. On peut dire, mais est-ce que Dieu entend les prières du peuple, oui ou non? Dieu doit être mis au centre de toutes choses, au lieu que Dieu soit mis de côté et nous sentons que Dieu n'est plus là. Merci, maman Christine. Nous continuons dans cette deuxième partie où nous voyons vraiment de situations, vraiment de misère et des cris de détresse du peuple. Oui, Papa José, tu as encore la parole.
Oui, merci beaucoup, Pasteur. Je crois que pour cette deuxième partie, comme vous avez dit, comme La sœur qui a commencé cette partie a dit, nous remarquons l'absence de Dieu. Quand l'absence de Dieu est là, il y a ce que nous voyons. Et Dieu est absent, soit, comme la sœur a dit, c'est à cause de nos péchés, ici on ne parle pas, soit Dieu veut nous apprendre. Si nous prenons le cas de l'épreuve qui arrive, qui nous arrive, il y en a plusieurs. Oui, on voit dans la situation de la pauvreté, de la misère, de la maladie, on voit directement, oui, c'est à cause de ce péché-là qu'il est devenu. Et lorsque nous regardons le cas de Job, les amis, ses amis ont dit la même chose, voilà, tu es comme ça, c'est parce que tu as mal agi et le Seigneur t'a tourné le dos, ainsi de suite. Mais nous savons, à la fin, ce n'est pas le cas. Et ce que nous pouvons comprendre, c'est que dans n'importe quelle situation, il faut que nous sommes toujours attachés à Dieu. Même dans l'épreuve, comme ces hommes, ils voient toujours Dieu. En disant, par exemple, au verset 12, « Tu nous livres à lui comme les bêtes. » Au verset 13, « Tu te débarrasses de ton peuple. » 14, « Tu nous laisses insulter. » Verset 15, « Tu laisses les nations faire de nous le sujet. » Ainsi de suite. Toujours Dieu. Parce que si nous écartons complètement Dieu, pendant la souffrance, pendant que nous sommes tourmentés, là, nous souffrons doublement, et sur le plan moral et sur le plan physique. Et là, c'est mauvais. Ce qui va arriver, c'est on abandonne Dieu. On abandonne Dieu. On insulte Dieu. Donc, nous devons toujours rester attaché à lui malgré la situation. C'est toujours lui, tu, toi. Et lui-même sait quand il peut intervenir pour nous débarrasser de cette situation. Ou s'il s'agit de notre mauvaise conduite, alors le Seigneur nous aidera aussi à comprendre cela, à renoncer et à revenir en lui. Voilà ce que je peux dire de cette partie, surtout les versets que j'ai soulignés. Merci.
Merci beaucoup, Papa José. Et nous voyons aussi une grande intimité de ces enfants. L'intimité est dans le sens qu'ils sont même en train de tutoyer Dieu pour montrer combien ils sont proches de ce Dieu. Amen. Malgré la situation qu'ils sont en train de vivre. Et quand nous regardons en détail ce qu'ils sont en train de vivre, à Nemo, c'est le silence de Dieu. Le silence de Dieu parce qu'il y a la honte, le silence de Dieu parce que le peuple est dispersé partout, le silence de Dieu. Et le peuple, et même le peuple de Dieu qui a beaucoup, beaucoup de valeur, au verset 13, il dit, tu te débarrasses de ton peuple à bas prix, et même sans en retirer le moindre profit. Donc pour dire, le peuple a perdu toute sa valeur, et le peuple se regarde, se dit, est-ce que Dieu nous donne encore la valeur. Parce que la vraie valeur, frères et sœurs, ce n'est pas la valeur que les hommes nous donnent. Les hommes peuvent nous donner beaucoup de valeur, beaucoup d'honneur. Les hommes, quand ils nous regardent, ils peuvent chanter pour nous, ils peuvent faire beaucoup, beaucoup de gloire. notre endroit à cause des profits qu'ils reçoivent, bien sûr. Mais la vraie valeur, c'est celle que Dieu nous donne. Et quand Dieu ne nous donne pas la valeur, même si les hommes nous donnent la valeur, nous ne valons rien à ses yeux. Voilà, le peuple se considère comme un peuple vraiment qui n'a plus de valeur parce qu'ils sont en train de constater que Dieu n'est pas là, que Dieu n'est plus avec eux. Tous les exploits qu'on leur a racontés, tous ces exploits n'existent plus. Ils ne les voient plus vivre, ils ne voient plus la main fracassante de Dieu, la puissance de Dieu s'est manifestée. Nous sommes en train de chercher à atterrir. Je vois encore une main. Je vais peut-être la considérer comme la dernière ce soir. Oui, maman Christine, tu as encore la parole.
Merci, Pasteur Célé, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis au verset 14. Et quand nous lisons la suite, ce n'est pas aujourd'hui, mais demain, nous verrons cela. Nous avons souligné que l'absence de Dieu vient parfois à cause de nos péchés, mais parfois aussi c'est un test ou une expérience ou quelque chose que Dieu veut que nous apprenions, une épreuve. Ici, dans le cas précis, nous verrons ça demain, ils n'ont rien fait. Ils n'avaient rien fait de mal, ils étaient toujours accrochés à Dieu, mais ils ont passé ce temps difficile qu'on nous appelle l'épreuve. Bien-aimé, j'étais en train de réfléchir. Il dit 14, tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Peut-être nous sommes en train de traverser la même situation. Nous sommes un objet d'opprobre. Les voisins, même les moqueries des frères et sœurs, de ceux qui nous entourent, un objet de sarcasme parmi les nations. Quand on nous regarde, on dit, mais celui-là, il n'était pas comme ça, regarde comment il est venu. Et la honte est toujours devant moi, et la confusion couvre mon visage. Moi, c'est à la voix de celui qui m'insulte, on nous insulte pour de part, on parle de mal. Sans qu'on ait rien fait, le Seigneur a permis que nous vivons la honte, l'opprobre. Cette parole vient m'encourager dans ce sens que, ma sœur, mon frère, nous pouvons vivre une situation comme ça. Nous sommes en train de nous poser. C'est pour cela que j'ai beaucoup aimé quand le pasteur a dit que ça, c'est une intimité. Quand la personne, on parle à quelqu'un qu'on a l'habitude de parler, tu nous fais ceci. Donc, ça vient m'encourager, ce que nous sommes en train de traverser dans la famille, que le Seigneur peut permettre que nous traversions une situation et lui-même est là avec nous. Et l'exemple à suivre, c'est l'exemple de ces fils de Corée qui ne vont pas abandonner, mais qui sont là en train de parler. Qui sait, après les propos, si Dieu va intervenir. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Dieu mérite qu'on lui dise de tout son cœur ce qu'on sent, mais qu'on lui dise réellement que nous ne t'abandonnerons jamais à cause de ce que nous vivons. Frères et sœurs, ce texte est extrêmement riche. Ce texte est parti de ce que les parents ont raconté aux enfants, aux petits-enfants. Et les enfants ont commencé à observer. On leur a raconté ce que Dieu a fait, la puissance de Dieu à l'œuvre, comment les nations ont été vaincues, comment les nations, d'autres nations, se sont même entretuées elles-mêmes sans aucune intervention du peuple de Dieu. Et tout cela, les enfants ont connu, ont entendu. Et maintenant, ceux qui sont en train de vivre, il voit vraiment autre chose. Alors, nous aussi, nous avons vécu, peut-être écouté des témoignages, écouté la puissance de Dieu, comment Dieu a agi avec son peuple. Depuis notre jeune âge, nous avons écouté ce que notre Dieu est capable Mais peut-être qu'aujourd'hui, la situation que nous vivons est complètement tout autre. Le silence total de Dieu. Et nous voulons voir ceci ou cela s'arranger, mais nous voyons que le temps continue à passer. Est-ce que c'est pour autant que Dieu nous a abandonnés? Non. Dieu, des fois, il peut permettre, c'est vrai, s'il y a une situation où nous voulons créer une grande intimité, une grande communion avec le Seigneur, le peuple de Dieu, à tous les niveaux, doit toujours s'examiner. Mais le silence de Dieu, ce n'est pas toujours dû au péché. Dieu travaille avec ses enfants en de multiples manières. Certaines épreuves peuvent être permises dans la vie de l'enfant de Dieu parce que Dieu a un objectif qu'il veut atteindre, peut-être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Rappelons-nous les épreuves par lesquelles Joseph est passé. Joseph n'avait pas péché, mais Dieu avait une destinée pour son peuple. Alors il a utilisé un jeune homme qui a grandi dans la souffrance, dans les pleurs, mais la confiance totale en Dieu. Voilà ce que Dieu demande de nos frères et sœurs dans tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Dieu a besoin de voir la confiance augmenter chaque jour. Quel que soit le niveau de nos difficultés, le niveau de souffrance, le niveau de nos pleurs, Dieu veut son peuple. Quand il nous donne une telle parole, c'est pour qu'il augmente encore notre foi, notre confiance en lui. Alors les parents, apprenons à dire les exploits que nous avons connus avec Dieu. Apprenons même à regarder dans les Écritures les exploits que le peuple de Dieu a connus. Racontons cela à nos enfants. Et cela reste, eux aussi feront la même chose à leurs propres enfants. Dieu reste le même. Les dieux d'Abraham, les dieux de David, les dieux de le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous méditions encore hier, où nous écoutions l'exhortation du serviteur des dieux dans notre Église, en disant que les dieux, votre Dieu, je m'en vais vers le Père qui est votre Père quand Jésus-Christ est ressuscité. C'est grand Dieu, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est aussi notre Père. Nous devons vraiment continuer à lui faire confiance, nous devons vraiment continuer à grandir dans sa connaissance jour après jour. Jamais faire l'erreur comme d'autres nations qui ont mis Dieu de côté. N'abandonnons jamais notre Dieu. Ne mettons jamais à l'écart notre Dieu. Au contraire, dans la famille, avançons ensemble. Dans l'église, avançons ensemble. Dans le fumeste, avançons ensemble. Quel que soit le temps de silence que nous constatons, Dieu reste le dernier rempart de chacun et de chacune d'entre nous. Je voudrais demander à un frère ou une sœur qui a le pain du jour de nous lire les commentaires avant que nous puissions écouter les annonces et de prier.
Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le rappel des espoirs du passé. Lorsque rien ne va plus dans notre vie, quand les échecs succèdent aux déboires, nous nous laissons souvent aller au découragement. Pensant aux bienfaits et aux bénédictions, aux grâces du Seigneur dans le passé, nous nous demandons si Dieu agit encore aujourd'hui. Certains peuvent même en conclure que Dieu ne se manifeste plus aux hommes comme il le faisait autrefois. Erreur, car en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Jacques 1, verset 17. Le mieux sera de tirer de ces rappels de la fidélité de Dieu dans le passé, la force de rebondir et d'espérer encore en lui. La situation présente nous montre que sans la présence de Dieu, c'est le chaos, la désolation, la ruine et surtout la honte. Israël pleure sa solitude, son abandon par Dieu. Le psalmiste se demande si le Seigneur, le Dieu qui protégeait leur père et accomplissait avec eux tant d'espoir, est celui-là même qui a fait d'eux la risée des peuples et reste sans réaction devant leur souffrance. Ce silence apparent de Dieu intrigue encore le croyant d'aujourd'hui. Pourquoi Dieu ne semble-t-il pas répondre à nos prières? Pourquoi ne vient-il pas vite à notre secours quand nous crions à lui? Malgré tout, persévérons dans la prière et dans la foi. Prière. Seigneur, dans mes épreuves, même si ton silence se prolonge, aide-moi à ne pas baisser les bras et apprends-moi à persévérer dans la foi. Amen.
Amen. Merci, ma sœur bénie, pour la lecture. Ces commentaires ont été écrits par notre frère Kanga et Rémi Kwaku de Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, nous saluons le frère et sœur aujourd'hui. Il n'y a qu'Alberta qui est connecté, qui médite avec nous à la radio. Nous bénissons le Seigneur. Le camp biblique avance et de grands pas. Nous bénissons tous les préparatifs qui se déroulent à tous les niveaux, que ce soit le frère et sœur qui sont sur place en Belgique. Aujourd'hui, nous avons parlé avec les frères et sœurs qui sont en France et en Belgique. Ils brûlent vraiment l'envie de voir les frères et sœurs de l'Amérique du Nord descendre nombreux pour communier ensemble. Je suis sûr que ça va être vraiment une explosion pour la gloire de Dieu à Ferrier. Le texte de demain, nous allons en fait terminer le chapitre 44 du psaume, psaume 44, donc à partir du verset 18 jusqu'à la fin, nous allons terminer le chapitre 44 de psaume. Ok, je vais demander à Papa José des États-Unis de prier pour nous recommander la grâce du Seigneur.
Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, les dieux des enfants d'Israël dans le désert, tu es aussi notre Dieu aujourd'hui, en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, en Asie. Aujourd'hui, tu ne changes pas. Tu as été très favorable à un peuple. Tu l'es aussi pour nous. Tu ne changes pas, Seigneur. Ce sont notre incrédulité, nos iniquités qui font que nous te voyons comme un Dieu qui agissait, mais qui n'agit pas aujourd'hui. Alors que tu es le même aujourd'hui, le même hier et le même demain. Seigneur, accorde-nous, donne-nous ce cœur qui t'aime vraiment, même quand ça ne va pas. Même quand ça ne va pas. Souvent nous voulons voir que tout aille bien. que tout aille bien. Alors que le Seigneur Jésus nous a dit aussi que vous aurez les frères, les sœurs, les pères, les mères, et aussi les tribulations, les persécutions. Nous n'aimons pas ça. Nous n'aimons pas les persécutions. Nous n'aimons pas la souffrance. Et pourtant, elles doivent faire partie de notre marche. Seigneur, accorde-nous un cœur qui t'accepte réellement. Un cœur qui voit que tu es un Dieu d'amour. Et cet amour, même est dans la souffrance. Oui, Seigneur, merci pour ces paroles, combien édifiantes. L'exemple de ces hommes-là qui ont écrit ce psaume il y a très longtemps. Nous apprécions ce qu'ils ont dit, nous apprécions leur foi. Et nous voulons, Seigneur, invoquer ton Esprit Saint qui nous donne un cœur qui t'aime vraiment. Un cœur qui se souvient de ce que tu as fait dans le passé. Parmi nous, tu as fait beaucoup de choses dans le passé, mais nous oublions. À cause de cette situation présente, nous oublions que tu as été pour nous un Dieu d'amour. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, que nous te voyons toujours bon, et que nous acceptions toutes les circonstances que tu mets devant nous. Ce que nous devons comprendre est que tu es toujours là à nos côtés. Gloire à toi, honneur à toi, notre Seigneur. Nous nous séparons pour nous reposer. Pour la plupart, ils vont dormir. Peut-être d'autres vont-ils travailler, que tu les accompagnes là aussi. Et demain, si tu ne viens pas, nous allons nous retrouver pour continuer et terminer notre psaume. Béni sois-tu pour le frère qui nous a dirigés. Merci beaucoup, Seigneur, pour la conduite, la canalisation des idées et les explications. Bénis-le, bénis toute sa famille et bénis le Fumès. Que la grâce du Seigneur Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous dès maintenant et à jamais. Amen.
Amen.
Merci.